Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter Radio Orient. Il est 17h, place à votre rendez-vous de l'information avec Nawal Alamouchi et François-Xavier de Calonne. Au sommaire de ce point, actualité sur la situation à Gaza, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé ce jeudi un catalogue sans fin d'horreurs dans l'enclave et a estimé que le niveau de mort et de destruction était sans équivalent dans les temps récents. L'Iran a promis une réponse à la décision que le pays juge injustifiée et illégale de Paris, Londres et Berlin de déclencher le mécanisme qui permet de réimposer les sanctions de l'ONU contre Téhéran, qui est accusé de ne pas respecter ses engagements nucléaires. Et en Ukraine, des missiles et des drones russes ont bombardé dans la nuit des immeubles d'habitation à Kiev. Au moins 17 personnes, dont 4 enfants, sont morts. Il s'agit de l'une des plus importantes attaques aériennes russes contre l'Ukraine. Et on débute par la situation à Gaza. Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé ce jeudi un catalogue sans fin d'horreurs dans l'enclave et a estimé que le niveau de mort et de destruction était sans équivalent dans les temps récents, selon ses mots. Et des experts de l'ONU en droits de l'homme ont dénoncé comme un crime odieux les informations faisant état de Palestiniens affamés qui auraient été victimes de disparitions forcées alors qu'ils cherchaient de la nourriture dans des centres d'aide de la Fondation humanitaire de Gaza. L'armée israélienne a déclaré ce jeudi avoir frappé une cible militaire des rebelles houthis au Yémen dans la région de la capitale Sanaa. Et sur le programme nucléaire iranien, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont déclenché ce jeudi le mécanisme qui permet de réimposer les sanctions de l'ONU contre l'Iran en raison du non-respect de ses engagements sur son programme nucléaire. L'Iran a promis une réponse à cette décision jugée injustifiée et illégale. Paris se justifie, l'escalade nucléaire de l'Iran ne doit pas aller plus loin. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce vendredi une réunion d'urgence pour discuter à huis clos de cette décision. En Ukraine, des missiles et des drones russes ont bombardé dans la nuit des immeubles d'habitation à Kiev. Au moins 17 personnes, dont 4 enfants, sont morts. Il s'agit de l'une des plus importantes attaques aériennes russes contre l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de préférer continuer à tuer plutôt que de négocier la paix. Emmanuel Macron a dénoncé, lui, la terreur et la barbarie de la Russie, selon ses mots. En Turquie, les maires de plusieurs grandes villes européennes sont allés soutenir ce jeudi à Istanbul le maire d'opposition qui est emprisonné depuis mars sur des accusations de corruption qu'il a toujours rejetées. Et dans un tout autre volet, l'Algérie accuse la France d'être responsable de la baisse du nombre de visas pour les Algériens. L'ambassade de France a annoncé qu'elle allait réduire d'un tiers son personnel en Algérie dès le 1er septembre. Alger dénonce une décision qui pénalise fortement ses ressortissants et accuse Paris d'utiliser la question des visas comme moyen de pression politique. Et toujours en Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a mis fin ce jeudi aux fonctions du premier ministre Nadir Larbaoui, en poste depuis novembre 2023, et a confié l'intérim au ministre de l'Industrie Sifi Grieb, selon un communiqué officiel. Et toujours en Algérie, le journaliste sportif français Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison dans le pays, reste combatif, mais se dit totalement isolé selon ses parents. Il demande que son dossier n'ait pas à servir de monnaie d'échange politique. Dans l'actualité en France, le Premier ministre François Bayrou poursuit ce jeudi sa campagne devant le MEDEF, syndicat patronal, pour obtenir le vote de confiance du 8 septembre à l'Assemblée. Mais ses chances sont faibles. Les oppositions qu'il doit rencontrer la semaine prochaine estiment que la page est tournée. Et des centaines de milliers d'anciens bénéficiaires des contrats TUC, le travail d'utilité collective et autres contrats aidés des années 80, ne pourront pas comptabiliser leur activité sous ce statut pour partir en retraite avant l'âge légal de 64 ans. C'est une décision du Conseil d'État qui valide une décision gouvernementale. Et dans le reste de l'actualité en France, plus de 2000 enfants dorment à la rue dans le pays, faute de places d'hébergement d'urgence disponibles. Un nombre en forte hausse depuis plusieurs années, dénonce des associations qui appellent à un sursaut de l'État. Et enfin, la campagne de prévention des bébés français contre le principal virus à l'origine de la bronchiolite va démarrer le 1er septembre en métropole et dans une large partie de l'Ouest. l'outre-mer. L'opération durera jusqu'en début d'année prochaine, selon le ministère de la Santé. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, place au dossier du jour. Et on débute par les relations tendues entre la France et l'Algérie. Alger accuse Paris d'être responsable de la réduction des visas pour les Algériens. Une réduction annoncée par l'ambassade de France en Algérie, faute d'effectifs accrédités suffisants. Le ministère des Affaires étrangères algérien a convoqué le chargé d'affaires français pour protester contre un communiqué de l'ambassade. Et on fait le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Et oui, c'est le dernier épisode en date dans cette brouille entre la France et l'Algérie. L'Algérie dont le chef du gouvernement Nadir Barzaoui a été limogé ce jeudi. Le ministère des Affaires étrangères algérien a convoqué le chargé d'affaires français. Il proteste contre un communiqué de l'ambassade qui annonce une réduction significative de ses effectifs. L'ambassade qui met Alger en cause. Elle le reproche aux autorités de ne pas avoir donné suite à l'essentiel des demandes de visa d'accréditation de son personnel. Dans les faits, les effectifs de l'ambassade et notamment des consulats d'Alger, d'Oran et d'Annaba seront réduits d'un tiers au 1er septembre prochain.
Le ministère algérien a dit avoir dénoncé auprès du chargé d'affaires français un grave manquement aux usages diplomatiques de la part de l'ambassade. Il juge son communiqué inacceptable, François-Xavier.
Alger parle d'une présentation tendancieuse des faits. Selon le ministère, il s'adresse directement à l'opinion publique algérienne pour incriminer une prétendue responsabilité du ministère algérien de la non-accréditation d'agents diplomatiques et consulaires français en Algérie. L'Algérie dit n'avoir fait qu'appliquer le principe de réciprocité. Cela, toujours selon les mots des autorités algériennes, face à un gouvernement français qui, depuis plus de 2 ans, a été à l'origine du refus d'accréditation de ses diplomates et agents consulaires. Selon le ministère algérien, 3 consuls généraux et 6 consuls algériens attendent leurs accréditations depuis plus de 6 mois et 46 agents diplomatiques et consulaires algériens n'ont pas pu rejoindre leur lieu d'affectation en France. L'Algérie dénonce une situation créée de manière délibérée et calculée par les autorités françaises qui lèsent gravement les ressortissants algériens établis en France, toujours selon les propos d'Alger.
Et il y a un autre sujet de tension entre la France et l'Algérie, c'est la détention de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal et du journaliste sportif français Christophe Glaise.
Hey, Christophe Glaise qui est emprisonné à Tizi Ouzou, dans la région de la Kabylie. Son procès en appel est attendu à l'automne après une condamnation à 7 ans de prison, condamnation prononcée le 29 juin dernier. Il lui est reproché d'avoir été en contact avec un dirigeant du club de foot de la jeunesse sportive de Kabylie, par ailleurs responsable du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, un mouvement considéré comme terroriste par Alger. Ses proches estiment qu'il est une sorte de victime collatérale des mauvaises relations entre la France et l'Algérie. Sa mère et son beau-père ont pu le voir une première fois dans un parloir, une demi-heure seulement, c'était ce mois-ci, et ils se disent particulièrement inquiets, bien entendu.
Et je le disais, il y a une autre détention qui est source de vives tensions, c'est celle de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal.
Oui, et là aussi, sa famille fait état de sa vive inquiétude et en appelle au chef de l'État français. Monsieur le Président, s'il vous plaît, faites quelque chose pour notre père, pour le libérer. Essayez de faire un dialogue avec l'Algérie, avec le président algérien, pour le faire sortir de prison. Des mots de la fille de Boualem Sansal, chez nos confrères de France Inter. Elle déplore n'avoir aucune nouvelle de son père. Nous ne savons rien de lui, de son état. Nous n'avons aucun contact, aucun échange, rien. Sabéa Sansal est inquiète parce qu'il a 80 ans et qu'il est très malade, souligne-t-elle. L'écrivain franco-algérien a été arrêté le 16 novembre dernier à Alger dans un contexte de crise diplomatique entre la France et l'Algérie au sujet du Sahara occidental. Il a été condamné en appel à 5 ans de prison ferme en juillet dernier, le mois dernier, notamment pour atteinte à l'unité nationale. Une condamnation pour avoir estimé que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc.
Et c'est dans ce contexte, François-Xavier, que près de 40 personnalités françaises, algériennes et franco-algérienne lance un appel à Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, les présidents français et algériens.
Et oui, un appel à l'apaisement. Et parmi ces personnalités, il y a l'historien Gilles Manceron, spécialiste notamment de la période coloniale. Et au micro de Radio Orient, il évoque la question cruciale de la circulation des citoyens de France et d'Algérie. Gilles Manceron.
D'une manière générale, il y a les facilités de circulation entre les deux pays. Car il y a en France de nombreux concitoyens qui sont d'origine algérienne. Ils ont souvent de la famille en Algérie. La question de la circulation, notamment pour les personnes qui sont âgées, qui sont malades, voire pour le rapatriement ou le transfert en Algérie après le décès de personnes âgées, ce sont des questions humaines qui sont fréquentes entre les deux pays. Et les relations de travail sont également nombreuses. Beaucoup d'étudiants font des parcours universitaires qui les amènent à faire des stages, des compléments de formation dans des universités européennes et notamment françaises. Donc, cette tension, elle est préjudiciable à des citoyens de chacun des deux pays.
La question de l'opinion est importante. Vous évoquiez la circulation sur l'expulsion des Algériens frappés d'une OQTF. La France n'est-elle pas obligée d'écouter aussi, d'entendre son opinion publique, comme le fait le président Tebboune sur l'affaire Boualem Sansal? Est-ce que les autorités de ces deux États ne sont pas également en partie prisonniers de leur opinion publique?
C'est vrai que les opinions publiques peuvent être importantes à entendre et à prendre en compte de la part des responsables politiques dans chacun des deux pays. Mais il faut aussi peut-être qu'elles prennent leurs responsabilités et qu'elles aient le courage de prendre les mesures nécessaires qui favoriseraient un apaisement. Je pense par exemple pour ce qui est de la France, hein, je m'attacherai surtout à évoquer le côté français. Pour ce qui est des déclarations qui sont faites soit par M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, concernant les Algériens, soit par d'autres personnalités.
Et c'était l'historien Gilles Manseron, spécialiste notamment de la période coloniale. L'autre dossier du jour, c'est cette situation catastrophique dans la bande de Gaza. Le pape a appelé pour la première fois ce mercredi un cessez-le-feu permanent. Il a interpellé la communauté internationale et a demandé à ce que Israël respecte le droit humanitaire international. Nous y revenons avec une figure de l'Église catholique en France, le père Christian Delorme, prêtre et délégué pour le dialogue interreligieux du diocèse de Lyon.
On assiste à l'agonie d'un peuple. On ne sait quoi faire et comment faire. On est en face de ce régime qui est en place à Tel Aviv, de M. Netanyahou, soutenu par un régime de même nature, mais plus puissant encore aux États-Unis, quoi. On est complètement dérouté.
Quel
Vous
est
savez que.
l'impact, hein, d'une parole papale? Quel est l'impact diplomatique d'un tel propos du souverain pontife Léon XIV?
Écoutez, aujourd'hui, je pense que ça peut encourager un certain nombre de pays à prendre la parole. Je pense que ça peut encourager des reconnaissances de cet État palestinien qui est attendu depuis si longtemps, et dont la création est prévue depuis si longtemps par les Nations Unies. Donc je pense que ça peut jouer dans ce sens-là, d'un encouragement à d'autres prises de parole. Quant à l'efficacité immédiate, je n'y crois plus. Aujourd'hui, le monde est gouverné par des autorités, des pouvoirs autoritaires plutôt brutaux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, que ce soit à Tel Aviv. Et ce sont des hommes qui ne croient qu'en la force et qui n'ont aucune empathie pour les populations civiles. C'est tout à fait nouveau. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est nouveau et c'est dramatiquement nouveau. Moi, j'appartiens à la génération qui est née juste après la guerre, à 75 ans, et nous avions des responsables de pays, d'États. Même les dictateurs avaient mauvaise conscience. Je pense aux dictateurs, par exemple, d'Amérique latine. Ils étaient sensibles aux pressions, aux lettres d'Amnesty International, de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Ils ne faisaient pas n'importe quoi. Khrouchtchev ne faisait pas n'importe quoi. Gorbatchev n'a pas fait n'importe quoi. Staline, oui, bien sûr, mais c'était avant. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une génération, aussi bien dans des États de droite que de gauche que de droite, peu importe l'ordre que vous choisissez, qui avait été porteur d'une certaine morale humanitaire. Tout cela n'existe plus. Tout cela n'existe plus.
Et vous le dites, un tel propos du pape Léon XIV est une forme d'encouragement à la reconnaissance de l'État
il faut crier
palestinien, ce qu'envisage de faire le président français Emmanuel Macron. C'est également une déclaration, un appel, alors que les chrétiens sont pris pour cible à la fois en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza. Cela s'est illustré ces dernières semaines.
La situation des chrétiens d'Orient, de manière générale, est catastrophique depuis surtout ces 30 dernières années. Et celle des chrétiens de Terre Sainte, cette terre qui pour nous, chrétiens, est sainte, comme elle l'est pour les juifs et pour les musulmans, malheureusement, c'est une histoire déjà ancienne. La population chrétienne palestinienne est réduite aujourd'hui à presque rien. À Gaza, je crois qu'il reste 200 chrétiens catholiques. Je ne sais pas combien il reste qui sont d'autres rites, mais pas tellement plus, quoi. Alors qu'ils ont été des dizaines de milliers. Donc il y a une tragédie des chrétiens d'Orient, et en particulier, pas seulement en Terre Sainte, mais on aurait pu attendre d'un pays qui se réclamait de la démocratie, qui bénéficie des retombées économiques, des pèlerinages. On aurait pu attendre qu'il y ait ce souci de préserver les droits des chrétiens. Ben non, les chrétiens de Terre Sainte sont poussés vers le départ, ne sont finalement acceptés que les chrétiens qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas des gens de l'Orient.
Et vous qui êtes prêtre en France, vous lancez également un appel au dialogue entre les différentes composantes de la société française.
Ah bah bien sûr, alors c'est devenu très très difficile aujourd'hui, vous savez bien. En France, le dialogue interreligieux est plombé par cette tragédie. La plupart des personnes engagées dans ce dialogue juives et musulmanes ne peuvent plus se parler. Et ça, c'est catastrophique parce que il ne faut pas que ce conflit s'exprime aussi en France, même si on sait bien qu'il y a des solidarités qui sont inconciliables.
C'était le père Christian Delorme qui a réagi à l'appel du pape Léon XIV pour que Israël respecte le droit humanitaire international à Gaza. Chers auditeurs, merci beaucoup pour votre écoute. Merci à Bizri pour la réalisation. C'était Nawal El Amouchi et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.